France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'optimisme prudent de Washington qui espère que Vladimir Poutine finira par accepter la proposition de cesser le feu américain. Les échanges sont productifs, assure Donald Trump. Reste à savoir ce qui relève de la communication et de la négociation réelle. Nous rejoignons Camille Magnard à Atlanta en début de ce journal. Nous prendrons également le pouls de la population russe avec le reportage de Sylvain Tronchet. L'université Johns Hopkins aux références mondiales de la recherche médicale annonce 2000 licenciements, la conséquence des coupes budgétaires voulues par le président américain. À Mayotte, 3 mois après le passage du cyclone Chido, le département peine encore à se relever. La loi d'urgence votée le mois dernier par les parlementaires n'a pas donné de plein effet, c'est le moins que l'on puisse dire. Antoine Maret a interrogé des élus mahorais. Et puis la lutte contre la fraude, 20 milliards d'euros détectés par les services du gouvernement en 2024. Valentin Gris fera le point sur les mesures prises depuis 2 ans. Un échange productif avec Poutine sur un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit bien évidemment là de la communication trumpienne cet après-midi, après la discussion hier entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le président russe. Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid avec son « oui mais » à la proposition américaine et les USA espèrent arracher un accord. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes à Atlanta, Donald Trump veut voir des signaux prometteurs ce soir et demande à Vladimir Poutine d'épargner la vie de milliers d'Ukrainiens. Est-ce que l'on s'oriente vers un dialogue direct entre les deux présidents à ce moment que l'on peut considérer comme crucial ?
C'est vrai. Et non, le téléphone rouge n'a pas encore repris du service. La conversation téléphonique que le monde entier semble guetter entre les deux présidents n'a pas encore eu lieu. C'est en tout cas ce qu'assure de concert la Maison Blanche et le Kremlin. Elle n'est pas à l'agenda de cette journée. Et tout le monde, tout de même, des deux côtés, au Kremlin, à la Maison Blanche, s'y prépare, on le sent bien, après que les bases de la négociation, les lignes rouges, les moyens de pression dont chacun dispose ont été mis sur la table hier soir pendant la rencontre au Kremlin entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Tout à l'heure, Donald Trump évoquait dans un message sur son réseau Truth Social cette rencontre à Moscou comme une discussion très intéressante et prometteuse et il insistait sur l'urgence de trouver un accord de cessez-le-feu. Il faisait référence, vous l'avez dit, à la situation de milliers de soldats ukrainiens encerclés, selon lui, dans la région russe de Koursk. Il exhortait Vladimir Poutine à éviter un massacre horrible, mais le souci, c'est que l'armée ukrainienne, elle, nie que ses soldats soient encerclés. Volodymyr Zelensky, au mieux, reconnaît que la situation militaire est très difficile là-bas, mais l'Ukraine, officiellement, ne soutient pas cette idée d'un corridor négocié avec les Russes pour évacuer ses soldats. Donald Trump reprend donc ici un narratif russe, au risque de renforcer la position dominante de Vladimir Poutine dans ces négociations de paix qui ne font que débuter.
Merci Camille Magnard, en direct depuis Atlanta. En attendant, la guerre continue dans la région de Koursk, sur le front en Ukraine et même jusque dans la capitale russe, visée de nouveau par des drones ce matin. Au moins 4 d'entre eux sont arrivés sur Moscou et sa banlieue. Notre correspondant Sylvain Tronchet s'est rendu sur le point de chute de l'un d'entre eux et a rencontré des habitants qui oscillent entre inquiétude, espoir et désillusion.
Le drone est tombé sur le toit d'un immeuble en face de chez Elena, réveillée en sursaut ce matin.
C'était assez flippant. J'avais l'impression de ressentir la détonation dans l'air, tellement c'était fort. J'étais surprise de réaliser que les quartiers du centre de ville ont été touchés.
Ce drone n'a fait que des dégâts matériels, mais il est tombé dans un quartier central, à peine 4 km du Kremlin, s'étrangle David.
Comment est-il possible qu'il ne l'ait pas intercepté ? Les autorités, il est clair que nous ne l'avons pas repéré. Il devrait y avoir des batteries anti-aériennes dans le coin. Il devrait prendre des mesures.
Après un premier raid mercredi, beaucoup de moscovites n'hésitent plus à admettre leur peur, comme Svetlana, une retraitée du quartier.
Bien sûr, vous vous sentez inquiet que de telles choses se produisent dans le pays. Il n'y a aucune garantie sur qui, quand et où ça peut tomber. Évidemment, tout le monde attend la fin de tous ces troubles.
Svetlana dit vouloir la paix, comme de nombreux Russes, mais beaucoup n'y croient pas néanmoins, comme Sergueï.
Ces événements ne s'arrêteront pas là, ils continueront encore. Des provocations seront commises de tous côtés jusqu'à ce que la guerre soit enfin terminée. L'histoire montre que ces négociations depuis Pierre le Grand ne se sont pas terminées en faveur de la Russie. Toutes ces négociations de paix.
Épargnés par la guerre, jusque-là, les habitants de Moscou surveillent les discussions en cours. avec une certaine inquiétude.
Sylvain Tronchet, enfin la Russie a commis les crimes contre l'humanité de disparition forcée et de torture dans le cadre de la guerre en Ukraine, selon une commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies. Ces crimes ont été perpétrés dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée contre la population civile, indique ce groupe d'enquêteurs dans un rapport publié cette semaine. Dans ce grand bouleversement sécuritaire et politique causé par la guerre en Ukraine et le changement de pied américain, le futur chancelier allemand Friedrich Merz voit son plan d'investissement géant pour le réarmement et la modernisation de l'Allemagne prendre forme. Le leader conservateur a obtenu des députés écologistes qu'ils acceptent de lever leur veto à ce programme sans précédent. Le Bundestag doit voter mardi. La future coalition gouvernementale CDU-SPD veut proposer l'assouplissement des règles d'endettement pour les dépenses militaires, ainsi qu'un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 12 ans pour rénover les infrastructures. À minuit, le shutdown. Les États-Unis sont au bord de la paralysie de l'administration fédérale en raison de l'absence d'accord au Sénat sur un texte budgétaire soutenu par Donald Trump, mais rejeté par les démocrates qui dénoncent des coupes drastiques. Situation classique aux États-Unis qui aboutit la plupart du temps sur une entente entre républicains et démocrates. Sauf que, depuis le début de son mandat, les coupes budgétaires de grande ampleur dans le budget fédéral sont comme un mantra du président américain, quoi qu'il en coûte, du moins pour l'instant. Ainsi, l'université américaine Johns Hopkins, l'une des plus prestigieuses du monde en matière de recherche médicale, annonce une vague de 2000 licenciements à travers le monde après la perte de centaines de millions de dollars de financement. Loïc Loury.
247 postes aux États-Unis et 1975 dans plus de 40 autres pays, c'est l'ampleur du dégraissage forcé annoncé par l'université Johns Hopkins, victime collatérale du démantèlement brutal de l'USAID, l'agence américaine pour le développement, dont elle ne recevra pas les 800 millions de dollars attendus. Un jour difficile a réagi pudiquement l'institution en évoquant les coupes à venir dans des programmes de recherche destinés à soigner les mères et les nourrissons ou à fournir de l'eau potable. Entre autres, 600 essais cliniques sont en effet actuellement dirigés par Johns Hopkins, l'une des universités les plus pointues au monde en recherche médicale. Très dépendante des fonds fédéraux, elle est toutefois d'autant plus vulnérable aux coupes budgétaires massives lancées par Donald Trump, très hostile de surcroît à l'égard du monde universitaire et de la recherche. Sauf surprise, l'université devrait d'ailleurs être forcé de procéder à d'autres licenciements dans un futur proche.
Répercussions américaines, répercussions mondiales, on le voit. Donc, en France, l'Académie de médecine, dans un communiqué, liste, je cite, les conséquences délétères du désengagement décidé par l'administration Trump. Le professeur émérite Patrice Debré, ancien chef du service d'immunologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et président du comité des relations internationales de l'Académie de médecine.
Nous sommes inquiets parce que une bonne partie du budget de la santé mondiale et une bonne partie de l'architecture de la santé mondiale, en particulier, vous connaissez certainement le rôle de l'OMS, dépendent considérablement des États-Unis. À peu près 40% en termes budgétaires et une force en matière de leadership qui est évidente. Donc les mesures qu'ont prises les États-Unis de supprimer un certain nombre de budgets, en particulier en ce qui concerne l'aide humanitaire par USAID et l'aide aux patients infectés par le VIH à travers le programme PEPFAR change et bouleverse finalement la donne de la santé mondiale.
Quand vous dites bouleverse, ça veut dire ça va avoir quel genre d'implication ?
C'est difficile de savoir exactement les mesures qui vont être effectivement appliquées. Celles qui ont connu pour certaines d'entre elles des dérogations, d'autres qui risquent d'être définitives. Mais on peut s'appuyer sur certaines d'entre elles, comme la désorganisation du SAID, par exemple, donc on va dire de l'aide humanitaire, pour penser que ça aura des répercussions extrêmement importantes. Et par contre, savoir exactement les répercussions que va avoir le fait pour les États-Unis de sortir de l'OMS est aussi un certain point d'interrogation. Donc je pense qu'il faut noter ces mesures, s'inquiéter qu'elles existent, suivre ce qui va se passer, et envisager surtout une modification de, à la fois en termes d'initiative et en termes de budget, de ce que les autres pays du monde pourront faire.
Le professeur Patrice Debré de l'Académie de médecine, joint par Tara Schlegel. Pourquoi Donald Trump attaque-t-il la science et la recherche? Quentin Laffey en reparle avec ses invités après ce journal. Au Royaume-Uni, le Premier ministre annonce une réforme gouvernementale. Keir Starmer déclare la guerre au ventre mou de l'État devenu trop étendu et inefficace, selon lui. Élu l'été dernier sur la promesse de reconstruire les services publics, le chef du gouvernement promet une refonte de l'administration. Emeline Vint.
En visite dans une entreprise de produits antiseptiques, Keir Starmer délivre un constat clair qui revient régulièrement dans le débat politique.
À l'heure actuelle, l'État emploie plus de fonctionnaires qu'il ne le fait depuis des décennies. Vous trouvez que ça fonctionne ? Pas moi. L'État est à son plus faible, débordé, brouillon. Il essaie d'en faire trop, mais le fait mal.
Première étape, moins de bureaucratie, moins d'organes de régulation. Même si le Premier ministre l'assure, les standards ne seront pas revus à la baisse.
Je donne à mon gouvernement un nouvel objectif, faire baisser les frais de mise en conformité de 25%. Moins de normes, plus de résultats pour renouer avec la croissance.
D'ailleurs, l'autorité de supervision de l'hôpital public en Angleterre sera ramenée au sein du gouvernement et 7000 postes supprimés. Autre stratégie, tirer profit de l'intelligence artificielle pour stimuler la productivité des fonctionnaires.
Il y a tant d'exemples, comme le ministère de la Justice. Les agents de probation doivent enregistrer tous leurs entretiens. Traiter ces enregistrements prend des centaines d'heures. On peut soit utiliser du temps humain, soit déléguer à l'IA. Je pense que l'IA va nous rendre plus humains, en fait.
Une partie des syndicats s'inquiète surtout d'un retour à l'austérité et aux coupes budgétaires dans les services publics.
À Londres, Emeline Vint. Il y a 3 mois, Mayotte, département le plus pauvre de France, était ravagé par le cyclone Chido. 39 décès, 40 personnes disparues, plus de 5000 blessés. Une population démunie et des dégâts évalués à 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui encore, les défis restent colossaux et ce, malgré la loi d'urgence entrée en vigueur à la fin du mois de février. Elle prévoit notamment la reconstruction des écoles, mais les élus locaux restent sur leur faim. Antoine Marette.
Mikidash Oumadi est maire centriste de Dzaoudzi l'Abattoir, une commune mahoraise d'une vingtaine de milliers d'habitants qui a été très touchée par le cyclone Chido. Cela fait plus de 2 semaines que la loi d'urgence est entrée en vigueur, mais l'édile n'en voit pas la couleur.
L'État a pris l'engagement de s'occuper des écoles. Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas contactés, on ne nous a pas appelés pour nous dire comment on va reconstruire. Et il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'échéance. Dans 3 ou 4 mois, on arrive dans les grandes vacances et à la rentrée, on ne sait pas si on aura des écoles qui répondent aux conditions optimales pour accueillir nos enfants.
La députée mahoraise RN Anchia Bamana va encore plus loin. Pour elle, Mayotte est tout simplement abandonnée par l'État français. Elle évoque une urgence absolue et pas seulement pour les infrastructures scolaires.
Les denrées alimentaires consommées localement, bananes, manioc, tout cela manque. La nature de Mayotte a été complètement dévastée par Chido. À ce jour, nous constatons que les magasins de Mayotte sont vides, l'eau de robinet est très rare, des coupures continues, l'approvisionnement d'eau embouteillée dans les magasins est insuffisant. Vraiment, les Mahorais sont très mécontents, notamment sur ces questions essentielles pour la vie.
Les produits du quotidien manquent, les prix explosent. 3 mois après le passage du cyclone Chido, l'économie du département le plus pauvre de France peine à se relever.
Ce soir, la gauche sénatoriale demande la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise après le passage du cyclone Chido. 20 milliards d'euros, c'est le montant de la fraude détectée en France en 2024, qu'elle soit fiscale ou sociale. 13 milliards d'euros sont finalement revenus dans les caisses de l'État. Catherine Vautrin, ministre du Travail et des Solidarités, et Amélie Montchalin, chargée des comptes publics, ont fait ce matin à Bercy le bilan de l'année dernière sur le front de la lutte contre la fraude. L'occasion de faire le point sur les mesures prises il y a 2 ans. En mai 2023, l'ancien ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, avait dévoilé un plan qui se voulait ambitieux, Valentin Grillet.
Le plan Attal fixait notamment des objectifs sur le nombre de contrôles, 25% de plus pour les particuliers d'ici 2027 par exemple. Surtout, ce sont les moyens alloués aux services de contrôle qui devaient être renforcés. 1500 postes devaient être créés. 2 ans plus tard, 1000 ont été affectés à la lutte contre la fraude sociale, 780 à la lutte fiscale. Beaucoup de ces postes sont néanmoins des réaffectations. 157 recrutements seulement ont été faits en 2025. Mais l'administration bénéficie de nouveaux moyens techniques, notamment informatiques, comme l'évoque Amélie de Montchalin.
Cela passe par exemple par un usage plus accru à l'intelligence des données, à l'intelligence artificielle, qui a permis de moderniser, de guider le contrôle fiscal. Il est estimé que les travaux de data mining, comme on les appelle, ont permis la mise en recouvrement de 2,5 milliards de droits et pénalités fiscales en 2024, c'est-à-dire 400 millions de plus qu'en 2023.
Les montants de fraude détectés augmentent donc, notamment pour la fraude sociale, 2,9 milliards d'euros l'année dernière contre 1,6 en 2022. Le recouvrement reste néanmoins difficile, 121 millions d'euros récupérés seulement l'année passée. Les niveaux sont plus stables côté fraude fiscale, 16,7 milliards détectés contre 14,6 en 2022, mais le fisc a récupéré la majeure partie de cette somme, plus de 11 milliards l'année dernière. Bercy veut désormais doubler encore les montants détectés d'ici 2027. Le ministère de l'économie compte sur l'arrivée de la facture électronique notamment, qui doit entailler les fraudes à la TVA, mesure attendue pour 2026 et qui pourrait rapporter 3 milliards d'euros supplémentaires. La proposition de loi portée par le député Thomas Cazenave, adoptée par l'Assemblée en janvier, devrait aussi produire des effets. Elle doit permettre de suspendre de manière préventive les aides publiques en cas de suspicion de fraude.
Valentin Grille, cela ressemble un peu à un baroud d'honneur. Quatre parlementaires vont déposer un texte pour valider les autorisations environnementales qui permettaient la construction des 53 km de l'A69 entre Toulouse et Castres. Autorisations qui ont été annulées par la justice le 27 février dernier. La décision du tribunal administratif de Toulouse marquait un tournant dans l'application du droit de l'environnement selon les experts du droit. Bonsoir Véronique Rébérotte.
Bonsoir.
Des députés et des sénateurs du Tarn vont déposer une proposition de loi dite de validation.
Oui, ces quatre élus du Tarn ont décidé de s'opposer à la justice avant la procédure en appel et une décision définitive du tribunal administratif. Ils cherchent, par le dépôt de cette proposition de loi dite de validation, à faire valider rétroactivement les arrêtés qui ont été cassés par le tribunal en première instance. Initiative rarissime mais légale, explique Jean Terlier, avocat et député macroniste du Tarn.
J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec la motivation du tribunal administratif. D'ailleurs, elle a fait l'objet d'un appel. Donc le gouvernement, lui aussi, considère et l'État considère que le tribunal administratif a rendu une décision qui est contestable sur le fond. Mais moi, tout en respectant la séparation des pouvoirs avec le pouvoir judiciaire, j'ai le droit de déposer une proposition de loi pour venir dire qu'un acte administratif, l'autorisation environnementale en l'occurrence, elle est valable parce que le tribunal administratif, sa décision, elle n'est pas définitive.
Pour Alice Terrasse, avocate des opposants à la 69, cette proposition de loi pour tenter de casser la décision de justice, qui a donc stoppé le chantier de la 69, cette décision attaque frontalement la séparation des pouvoirs. Alice Terrasse.
Ces lois de validation visent en général à prévenir l'annulation d'actes administratifs qui sont entachés d'illégalité mineure, principalement des vices de procédure de faible importance. Or, dans la 69, la démarche est tout autre. Il s'agit en fait de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice qui a été rendue sur le fond. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale de la 69 au motif que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc là, cette loi de validation, clairement, cherche à contourner la décision pour porter atteinte finalement au principe de séparation des pouvoirs, puisque la justice a déjà statué sur ce point. Monsieur Terlier et quelques élus font usage de leur statut de député pour neutraliser une décision de justice. Pour moi, c'est une dérive inquiétante. Elle me remet en cause le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel essentiel à notre démocratie.
Si cette loi devait être votée courant juin, c'est ce qu'espèrent les élus, elle devra encore ensuite être soumise au Conseil constitutionnel, où elle a tout de même de fortes chances d'être censurée, estiment les opposants à la 69.
Merci Véronique Rébérotte. Un mot du temps. Demain, un épisode neigeux se met en place sur le centre-est dans la nuit. Les chutes de neige vont se prolonger une partie de la journée sur le nord de l'Auvergne, le Limousin, la Bourgogne. Le temps sera plus sec sur le nord-ouest, les éclaircies plus larges de l'ouest de la Provence au Roussillon. Les températures demain, les valeurs maximales vont de 2 à 9 degrés sur la moitié nord, de 5 à 14 degrés au sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.